Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Gomitra-Dougou, dans le cercle de Djéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations matinales dont voici les titres. Campagne agricole 2020-2021, les prévisions de 820 000 tonnes de graines, de coton en graines et 11 millions de tonnes de céréales seront atteintes malgré des difficultés. C'est ce qu'affirme le Conseil supérieur de l'agriculture du Mali. Les accords de non-agression entre les populations et le groupe djihadiste ont-ils montré leurs limites au centre du pays? La réponse divise experts et leaders de groupes d'autodéfense présents dans la zone. À Bamako, les grognes sociales refont surface. Les hôpitaux du point G de Gabriel Touré et l'hôpital dermatologique sont en grève depuis hier lundi. Le syndicat des impôts, le comité SNESUP et SNEC de l'Institut universitaire de gestion passent aussi à l'éponge. Voilà le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant avec Imrana Kilomaïga à la mise en onde de Mamadi Keïta. Du nord au sud, en passant par le centre, les paysans rencontrent des difficultés avec la campagne agricole. Cependant, plus de 820 000 tonnes de coton graines et plus de 11 millions de tonnes de céréales sont attendues cette année par le Conseil supérieur de l'agriculture du Mali. Cette campagne qualifiée de prometteuse par rapport à 2020 par les autorités de la transition est confrontée par des difficultés liées à la pluviométrie mais aussi à l'insécurité. Le point dans ce reportage réalisé par Mamadou Samasiko.
Pour Aliou Diko, directeur régional d'agriculture de Gao, la campagne agricole est confrontée au nord à deux difficultés majeures. Il s'agit de la rareté des pluies et l'insécurité. C'est le cas à Bourra et Ouattaguna dans le cercle d'Ansongo, explique-t-il.
L'essentiel de la production agricole de la région de Gao, c'est dans le cercle d'Ansongo. Et c'est dans cette zone-là que l'insécurité fait beaucoup de problèmes.
Ces difficultés sont les mêmes que dans la région de Mopti. Seule la zone sablonneuse de Seno, comprenant les zones cultivables de Koro et Bankas, résiste actuellement à la sécheresse. Regrette Dadokuni, chef de division conseil et vulgarisation de la région.
Du côté de Mopti, Douanza, une partie de Guinée, c'est là où il y a beaucoup plus d'inquiétudes puisque les plans n'ont pas atteint un niveau satisfaisant de développement. L'insécurité a toujours impacté du début jusqu'à maintenant.
Cependant, dans la région de Sikasso, l'état des cultures est très satisfaisant. Nous confirmons la direction régionale d'agriculture de la localité. Mais le rythme des pluies a causé des inondations dans certains lieux, précise les responsables de cette zone de culture cotonnière par excellence. Maurice Silla, directeur régional de l'agriculture de Sikasso.
Malgré les inondations, malgré la quantité insuffisante d'engrais, nous comptons dégager un excédent céréalier commercialisable.
Malgré ces quelques difficultés, les acteurs agricoles espèrent que les prévisions faites en coton et céréales seront dépassées cette année lors des prochaines récoltes.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Plusieurs villages du cercle de Massina et Diabali se vident de leur population depuis quelques jours, rapporte des sources locales. Face à la menace des présumés djihadistes, des centaines d'habitants de ces villages se déplacent vers d'autres localités, affirme-t-elle. Pendant ce temps, les attaques contre les populations civiles et militaires se poursuivent au sud, au centre et au nord du pays. Ces violences ont fait au moins une dizaine de morts et plusieurs blessés. Le point avec Fatih Attara.
Ces déplacements massifs des populations sont signalés à Bouyagiwere, Bewani, Pondasaba, Manijé, Nanzambougou, Zanakoro et Mokon, tous des villages de la région de Ségou. Des populations estimées à plus de 1000 personnes, des femmes, des enfants et des vieilles personnes en majorité. La situation reste précaire dans la zone où des présumés djihadistes et des milices de chasseurs s'affrontent régulièrement. Dans la même zone, des convois de l'armée malienne sont tombés dans une embuscade ce dimanche entre Manijé et Kolongo, cercle des Massina. Les bilans selon les autorités militaires est de 5 morts, 5 véhicules brûlés du côté de Fama ainsi que 3 morts et 3 véhicules détruits côté assaillant. Au même moment, des routiers marocains ont été tués à Nara et plus de 4 personnes dont un policier ont été blessées par des hommes en armes. Selon des sources locales, ces hommes armés seraient venus de la forêt de Ntobala entre Kita, Djeni et Djema.
Les accords de non-agression sont de plus en plus signés entre les populations et le groupe djihadiste au centre du pays. Pourtant, au même moment, des voix fustigent la capacité de ces accords à rétablir la paix et la sécurité dans les zones occupées. Est-ce que ces engagements permettent-ils l'arrêt de toute forme de violence entre les parties signataires? Des spécialistes de la sécurité affirment que la signature de ces documents de conciliation a permis le retour d'un minimum de paix et de sérénité pour les populations. Mais des leaders de groupes d'autodéfense de la zone estiment qu'ils n'ont rien servi. Mohamed Ali Agaleida.
Pour Boubacar Ba, directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, ces arrangements ont permis d'élever les blocus, réouvrir les marchés et d'assurer la mobilité des personnes et de leurs biens dans plusieurs localités du centre.
Donc il va falloir comprendre quelle est la logique de ces accords et que les gens ont droit à la vie. S'ils veulent signer des accords pour leur vie, ils peuvent le faire. Et on ne doit pas les empêcher parce qu'on est un groupe armé, on veut menacer des gens. Ça ne doit pas passer dans notre pays.
Cependant, pour Bourahima Sagara, porte-parole de la milice d'Anna Amasagou, ces accords ne sont ni au profit des populations ni à la faveur de l'État.
Chez nous, à Bangara, quand ils ont venu faire l'accord, à Balkan, ils ont fait descendre des drapeaux maliens. Partout où il y a les accords, il n'y a pas l'école. Partout où il y a les accords, il n'y a pas des enseignants, il n'y a pas l'administration, il n'y a pas la santé.
En attendant le retour de l'État et des forces de sécurité dans toutes ces localités occupées au centre du pays, les conflits continuent de provoquer des milliers de déplacés.
Les Maliens ont aujourd'hui soif de la sécurité et de la justice du nord au sud, d'est en ouest, et cette lutte ne se fera que si l'État prend en main la lutte contre la corruption et l'impunité. Cette déclaration a été faite hier par le Premier ministre lors de sa visite à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Pour Choguel Kokalamaiga, la refondation du pays passe par la lutte contre les crimes financiers. Les précisions avec Draman Maiga.
Pour le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, la mauvaise gestion des services publics continue de causer d'importants préjudices au Mali. Moumouni Guindo affirme que les fonds dilapidés en moins de 20 ans suffisent pour construire plus de 1700 centres de santé de référence à travers le pays.
De 2005 à 2019, plus de 1206 milliards de francs CFA sont ressortis comme étant les conséquences financières des actions de mauvaise gestion dans certains services publics du Mali. Tous les secteurs sont affectés. Nous avons d'ores et déjà transmis à la justice près de 10 dossiers.
C'est pourquoi le Premier ministre de la Transition a assuré que la lutte contre l'enrichissement illicite entamé va se poursuivre. Pour Choguel Kokalamaiga, les défis restent énormes dans la lutte contre la corruption.
Nous considérons qu'il faut engager de façon résolue la lutte contre la corruption, qu'il n'y ait aucun doute sur la détermination du gouvernement à soutenir toutes les institutions impliqués dans la chaîne de lutte contre l'impunité.
Pour rappel, le dernier rapport en date de Transparency International classe le Mali 129e pays sur 179 le moins corrompu au monde.
Les hôpitaux du point G de Gabriel Touré et l'hôpital dermatologique de Bamako sont en grève de 4 jours. Cette grève qui a débuté ce 13 septembre a pour objectif de revendiquer leurs droits selon les responsables du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Toutefois, il rassure que le service minimum sera assuré pendant cette période. Par ailleurs, le syndicat des impôts et le comité SNESUP et SNEC de l'Institut universitaire de gestion sont également en arrêt de travail. Le point avec Ousmane Nialibouli.
Les revendications du syndicat national de la santé sont entre autres l'intégration à la fonction publique de certains contractuels, l'amélioration du plateau technique, les primes de garde et le retour d'un de leurs collègues affectés dans un autre service. Docteur Guida Landouré, médecin au CHU du Point G, secrétaire général adjoint du syndicat national de la santé.
En plus de cette mutation, le directeur général du Point G a intimidé les gens en appelant des syndicalistes au tribunal, en donnant des demandes d'application à des gens.
Au même moment, le comité du syndicat national de l'enseignement supérieur et celui du syndicat national de l'éducation et de la culture de l'Institut universitaire de gestion sont aussi en grève illimitée. Moussa Keïta, secrétaire général SNESUP de l'IGE.
C'est la rétrocession de la quote part de l'unité de formation et de production. Le deuxième mot, c'est l'abrogation de la décision numéro 5 et 2016 du électorat. Troisième point, c'est le rappel des primes et indemnités.
Les syndicats des impôts est également en arrêt de travail, une situation qui découle de l'affectation d'un délai du centre des impôts de la commune 4 à la commune 2 de Bamako.
Parlons à présent du point de la maladie à coronavirus. Un nouveau cas de COVID-19, 4 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. À ce jour, la situation cumulée est de 14 984 cas positifs, dont 14 177 patients guéris et 543 décès. Place maintenant à la rubrique Acti COVID présentée par Aïssa Tadjara.
Mani.
La seconde phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit à Bamako et à l'intérieur du pays. Plus de 3 semaines après le lancement des opérations, certaines localités ont déjà fini leur dose de vaccin Johnson & Johnson. Au même moment, les autorités sanitaires annoncent l'arrivée de près de 180 000 doses de vaccin AstraZeneca. Écoutons les explications d'Ibrahim Diarra, directeur du Centre national d'immunisation. Il est joint par Moussa Malé Sissoko.
Nous avons à l'heure actuelle vacciné plus de 94 000 personnes et ça continue pour une dose reçue de 151 000 personnes. Bamako a fini pratiquement toute sa dose. La même chose que Tao Teni, Menaka, ça aussi c'est fini. Et Gao, il ne reste pas beaucoup, il reste quelques 320 000 doses. Et quoi qu'on a les résultats d'aujourd'hui, en tout cas, seront encore meilleurs par rapport à Gao. On dit que la vaccination est intense dans les régions de Mofti, de Tombouctou et de Kaï. Parce qu'ils ont commencé un tout petit peu en retard compte tenu de la situation, en tout cas, sécuritaire. Nous allons recevoir bientôt à peu près 79 200 dose de vaccin AstraZeneca en septembre 2021. Ceux-là qui n'ont pas encore reçu leur deuxième dose. Et ces régions aussi seront en tout cas priorisées, notamment Kulukoro, Fouille et Bissigasso, plus aussi le district de Bamako.
Le lancement de la campagne de vaccination des 5800 doses de vaccin Johnson & Johnson a eu lieu jeudi dernier au centre de santé de Nyafunké. Selon le médecin-chef, le vaccin est disponible dans les 29 CSCOM du cercle et 116 agents vaccinateurs ont été formés pour la vaccination. Les premières doses ont été administrées au médecin-chef, à l'imam de la grande mosquée, au chef du village et au commandant des FAMA. À présent, la question d'auditeur est répondue par Dr Abdoulaye Guindo, directeur général adjoint de la Direction générale de la santé.
Bonjour docteur, pourquoi les moins de 18 ans ne sont pas concernés par la vaccination?
Le vaccin n'est pas aussi assez en tant que tel, donc nous avons privilégié les couches très probables de présenter ces comorbidités. Et les enfants et les jeunes adolescents peuvent faire la maladie, mais qui ont une certaine immunité que ceux qui sont aussi concernés, en tout cas pour cette vaccination.
C'est la fin de ce numéro d'ActiCovid. Merci pour votre confiance. Le respect des mesures barrières édictées par les autorités peut vous protéger du coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité en région nous conduit à Banamba où 23 personnes ont été blessées dans un accident de circulation survenu lundi sur la route de Banamba, non loin du poste de contrôle. Ces informations ont été communiquées hier par la direction régionale de la protection civile de Kulikoro. Une sauterelle en provenance de Bamako s'est renversée d'elle-même, explique-t-elle. Une défaillance technique serait la cause probable de cet accident, affirment les responsables de la protection civile. Toutefois, toutes les victimes ont été évacués au CCRF de Kulikoro, conclut le communiqué. La médiation, la prévention et la gestion non violente des conflits communautaires est le thème d'une rencontre organisée la semaine dernière à Mopti. Plus de 100 participants, dont des administrateurs de jeunes et des femmes venus des cercles de Tenenku et Yuaru, participent à la rencontre. L'objectif est de trouver les voies et moyens pour asseoir un climat d'entente entre les communautés, mais aussi de prévenir et gérer les conflits au sein des communautés. La rencontre est organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire et financier par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne. Elle a duré 3 jours. Samba Yatara est le nouveau délégué général des exploitants agricoles de l'Office du Niger. Il a été élu par le 21 délégué des exploitants agricoles de cette zone de production à Nyono ce dimanche. Élu pour un mandat de 5 ans, il remplace Abdoulaye Dawa à ce poste. Le délégué général est un trait d'union entre les exploitants agricoles et l'Office du Niger. Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imrana Kilomaïga, la mise en onde de Mamadi Keita. Ne quittez pas, dans quelques instants, vous aurez la version Bambara avec Aïssa Tadjara.